Lecture du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Voici quelle fut l'origine de Jésus le Christ. Marie, la mère de Jésus, avait été accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit-Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de la répudier en secret. Il avait formé ce projet lorsque l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit-Saint. Elle mettra au monde un fils, auquel tu donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva pour que s'accomplît la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et mettra au monde un fils, auquel on donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous.
L'année même où l'archevêque de Paris, Hyacinthe Louis de Kellen, autorisait la frappe de la métaille miraculeuse en 1832, un nouveau curé était nommé à Notre-Dame des Victoires, l'abbé Desgenette. Et il se sentit vite accablé par l'incroyance du monde du négoce et de l'argent qui peuplait sa paroisse. Le 3 décembre, célébrant la messe, il entendit une voix intérieure l'invitant à consacrer sa paroisse au cœur immaculé de Marie. Aussi les conversions se multiplièrent. La toute pure avait voulu se révéler comme refuge des pécheurs. Si nous invoquons Marie sous le titre de son cœur immaculé, refuge des pécheurs, c'est parce que nous sommes conscients et accueillant à la parole que l'ange dit à Joseph. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et nous risquons bien souvent, sous les difficultés, nos difficultés, les difficultés du monde, de nous trouver un peu accablés comme l'abbé Desgenette, devant ce monde qui vit par le négoce, l'argent et la consommation, etc., par toutes les tribulations qui arrivent dans le monde, et comment nous pouvons reprendre espoir, comment nous pouvons voir, accueillir cette parole de Jésus Sauveur. Dans les lectures qui nous sont données aujourd'hui, nous avons ce livre de la sagesse. On ne prend pas souvent le livre de la sagesse dans la liturgie, mais c'est un livre intéressant car il a été écrit à une période très proche, une cinquantaine d'années avant la naissance de Jésus, et c'est comme s'il y avait en condensé dans ce livre toute la théologie, et toute la théologie de ce visage de Dieu qui nous est donné à travers cette méditation sur la sagesse. Alors le livre comporte trois parties. La première qui parle de la sagesse et de la destinée humaine, la deuxième partie qui parle de son origine, de sa nature, de son action et comment l'acquérir, et puis dans la troisième partie d'où notre texte est tiré, eh bien c'est l'œuvre de la sagesse et de Dieu dans l'histoire. Et le texte reprend, fait une lecture au chapitre, ça commence au chapitre 10, le chapitre 10 fait une lecture de tout le livre de la Genèse d'une manière restreinte, enfin d'une manière regroupée, et puis on passe tout de suite à l'Exode qui va prendre toute la fin de la partie, qui va parler de toute l'histoire. Et avec une manière étonnante, c'est que très rapidement, on ne parle plus de l'œuvre de la sagesse, mais comme vous avez entendu, le texte il est à la deuxième personne, il s'adresse à Dieu directement. Hein, tu as pitié des hommes, tu fermes les yeux, tu aimes, etc. Et tout le reste du passage est là. Et toute l'histoire, toute la relation de Dieu qui sauve son peuple, toute l'expérience de la vie d'Israël et de toute la vie chrétienne, elle se passe dans cette grâce de l'Exode, de la sortie d'Égypte, de la sortie de l'esclavage. Et nous avons une méditation qui va parler de l'œuvre et qui va d'une manière étonnante parler, ça commence d'une manière qui peut nous surprendre, comment l'eau qui a été une sorte d'antithèse, l'eau qui a été l'instrument du châtiment pour les Égyptiens, elle devient œuvre du salut avec la soif dans le désert et le rocher qui s'ouvre. Et il y a cette méditation de voir aussi combien Dieu pouvait et aurait pu d'une manière très forte eh bien, châtier les Égyptiens, châtier Canaan. Et puis en même temps, la méditation ici, elle montre comment quand Dieu châtie, c'est toujours avec modération. Et pourquoi cette modération? Nous l'avons ici dans notre passage. Pourquoi cette modération? Parce que Dieu est tout-puissant, parce que Dieu est miséricordieux, il est amour, parce que nous aurons plus tard, parce que c'est l'œuvre de sa justice. Et alors nous avons ce texte étonnant qui commence dans la partie que nous avons aujourd'hui. Eh bien, d'abord, cette insignifiance dans l'univers de notre existence. Le Seigneur, nous qui avons le sens aujourd'hui d'un monde encore bien plus grand, d'un univers encore bien plus grand qu'on pouvait avoir à l'époque de Jésus. Le monde entier est devant toi comme un rien sur la balance, une goutte de rosée matinale qui descend sur la terre. Et pourtant, tu as pitié de tous les hommes. Et la raison, parce que tu peux tout. Tu es miséricordieux, tu aimes la vie. C'est la vie que le Seigneur. Et voyez, on pourrait passer de tout ce commentaire de ce passage, de ce livre, en montrant comment il est en résonance avec tout le reste de la Bible. Et ici, on entend la parole du prophète Ézéchiel. Hein, ce n'est pas la mort du pécheur, mais je voudrais qu'il vive, qu'il se convertisse et qu'ils vivent. Alors si nous sommes invités à nous mettre sous le vocable de Marie, refuge des pécheurs, ce n'est pas pour trouver un refuge comme on a un peu dans l'idée, comme quelque chose de statique, mais c'est quelque chose qui va nous mettre en mouvement, parce que cela parle de notre conversion. La grâce du baptême, la grâce de notre baptême qui doit se déplier dans notre vie, elle est faite pour nous apprendre à suivre, à suivre la volonté du Seigneur, à suivre cette volonté qui est vie et à nous mettre en route petit à petit pour notre conversion pleine et entière. Si Marie ici est invoquée comme source d'évangélisation finalement dans l'expérience du père Desgenettes, et c'est pour ça aussi que le père Lamy a voulu le prendre, parce que le père Lamy aussi était face à l'incroyance et eh bien dans sa paroisse à Saint-Ouen ou à La Courneuve, et frappé aussi par ce travail d'évangélisation, ce travail d'inviter à ce que la vie de Dieu soit plus forte que la mort, que nos préoccupations d'hommes de manière mondaine, eh bien, qui finalement nous entraînent à gâcher notre vie et non pas à la donner. D'une manière étonnante, l'écrivain biblique revient sur ce travail de conversion. Tu aimes les vivants. Alors, ceux qui tombent, tu les reprends peu à peu. Ce mot « peu à peu », il reprend une phrase du Deutéronome qui montrait comment la sortie d'Égypte et la conquête de la Terre Sainte, elle ne s'est pas faite d'une manière comme on pourrait croire, comme ça, ça se fait tout d'un coup, mais ça se fait « méat, méat », petit à petit, peu à peu. Et nous avons constamment, et nous le voyons dans la vie des saints, dans la vie intérieure des saints, nous voyons comment la grâce est appelée à purifier de plus en plus, à rentrer de manière plus intérieure. On a l'impression qu'ils sont déjà saints, et pourtant ils ont le sens qu'ils sont travaillés petit à petit, toujours plus, pour qu'ils soient vraiment qui est le projet de Dieu, et que la théologie, pour que Dieu s'est fait homme, pour que nous devenions divins, pour que nous devenions membres du Christ, pour que vraiment nous puissions porter la vie, l'évangile de la vie à tout homme. C'est dans cette dynamique que le Seigneur nous entraîne. Revenons toujours à cette grâce de Pâques, à cette grâce de conversion. Hein, tu les reprends peu à peu, tu les avertis, tu leur rappelles en quoi ils pêchent pour qu'ils se détournent du mal et croient en toi. Nous avons avec saint Paul cette vision, après avoir montré dans son épître aux Romains que tout homme est pécheur, le païen comme le juif, combien la grâce de Dieu a surabondé. Comment la grâce, et dans ce chapitre 5 que nous lisons, comment c'est cette vie plénière qu'il veut nous inviter à transmettre. Demandons la grâce au Seigneur de grandir dans la conversion personnelle, la conversion communautaire, et de aussi trouver refuge en Marie pour savoir non pas rester statique, mais bouger et porter l'évangile, annoncer ce que Dieu libère. Mais il nous faut toujours revenir. Comment Dieu libère? Comment il nous libère? D'une manière étonnante, nous pourrions dire, oui, mais dans notre monde, il est toujours soumis aux tribulations, et le mal existe encore dans le monde. Et le chapitre 5, dont est sorti le passage que nous avons pris, commence aussi d'une manière incroyable. Ayant donc reçu notre justification de la foi, nous sommes en paix avec Dieu. Lui qui nous a donné d'avoir accès à la foi, à cette grâce en laquelle nous sommes établis. Et nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Nous nous glorifions encore dans les tribulations, sachant bien que la tribulation produit la constance une vertu éprouvée, la vertu éprouvée l'espérance. Et l'espérance ne déçoit point, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous fut donné. Alors, demandons à Marie, cette étoile de l'évangélisation, comme disait Paul VI, elle qui est dans le cœur immaculé triomphera, et qu'elle l'a montré plusieurs fois et souvent dans l'histoire, demandons-lui de vraiment devant les tribulations, devant les difficultés, de ne pas se laisser décourager, désarmer, mais d'entendre cette parole que l'Esprit Saint t'habitera. Pour Joseph, pour Marie, c'est un long chemin qui commence, mais c'est ce chemin d'espérance, ce chemin de foi, parce qu'ils ont cru dans la parole du Seigneur, alors la parole du Seigneur a pu se déployer en eux. Demandons la grâce de croire profondément dans cette grâce qui nous a été donnée, de nous laisser renouveler, de nous laisser entraîner à travers toutes les difficultés de cette vie, mais pour que nous soyons vraiment porteurs de cette espérance et de cette grâce de la vie nouvelle pour beaucoup.